La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose le commentaire d'un texte de la Bible centré sur le Christ.
Chers auditeurs et auditrices de Radio Présence, bonjour. Au micro avec vous aujourd'hui, le pasteur Lionel Fouché, pasteur en l'église Assemblée de Dieu à Toulouse, dans le quartier Sainte-Anne. Nous allons continuer aujourd'hui notre série sur les rencontres de Jésus que nous trouvons dans les évangiles, rencontres qui ont été déterminantes, bouleversantes pour beaucoup d'hommes et de femmes qui ont pu ainsi entrer en contact avec Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler de celui qu'on appelle communément le possédé de Gadara et nous allons voir que la situation de cet homme était terrible, mais qu'il va connaître un bouleversement phénoménal dans sa vie suite à sa rencontre avec Jésus. Nous lisons ce texte dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 5, à partir du verset 1er. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte : « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu Très-Haut ? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda « Quel est ton nom ?»« Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le prit instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent et entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la liaison, assis, vêtu et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme ils montaient dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit « Va dans ta maison vers les tiens » et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Nous voyons dans ce texte que nous venons de lire ensemble la situation d'un homme qui vit quelque chose de terrible. Cet homme, nous est-il dit, est possédé d'un esprit impur. Même lorsque nous lisons un peu plus loin dans le texte, ils sont même plusieurs à avoir pris possession de lui. Cet homme, eh bien, avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Cet homme se retrouve dans une situation de tourment, une situation de souffrance intérieure. Il est là, isolé en plus, coupé du reste de la société. Cet homme qui devait être la terreur de toute la contrée avoisinante, de toutes les villes et les villages. Cet homme qui est là dans les sépulcres et dans les montagnes, sa situation n'est pas du tout enviable. Il est isolé, vit ainsi dans les montagnes, sur les pentes escarpées, et il nous est dit que il se meurtrissait avec des pierres. Cet homme est en train de se mutiler, la souffrance qui est à l'intérieur de lui s'extériorise et cet homme se blesse gravement. Il nous est dit aussi qu'il crie. Voilà encore la souffrance qui s'extériorise. Cet homme crie toute sa douleur, crie toute sa souffrance. Plus personne ne peut plus rien pour lui. On avait bien essayé de le dompter, mais à chaque fois, ces mauvais esprits qui étaient en lui décuplaient ses forces et il brisait tous les liens et toutes les chaînes. Le prophète Ésaïe avait dit en son temps, au chapitre 1er de son livre, verset 6, « De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. » Ce qu'avait dit Ésaïe en son temps concerne en premier lieu bien sûr la situation d'un peuple qui va connaître des circonstances fâcheuses et douloureuses. Nous pouvons aussi l'appliquer, ce verset, à des situations dans lesquelles se retrouvent certains hommes et certaines femmes. Dans la Bible, il est souvent question, par exemple, de la lèpre où l'on voit que cette maladie va finir par toucher tout le corps, la peau, les nerfs et les membres, à tel point que rien n'est en bon état. Non seulement rien n'est en bon état, mais en plus on ne peut plus rien faire, on ne peut plus ni soigner, ni adoucir les plaies, du moins avec les remèdes qui existaient à l'époque. Mais nous pouvons l'appliquer aussi à cet homme dont nous avons lu le récit et qui vit dans les sépulcres et dans les montagnes. Rien n'est en bon état. Ce n'est pas une maladie physique qui l'atteint, mais nous pouvons dire que rien n'est en bon état. Du pied jusqu'à la tête, ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives. Cet homme qui n'est pas atteint par une maladie physique est atteint probablement par un mot bien plus grave encore. Rien n'est en bon état dans son âme, rien n'est en bon état dans son cœur, et ce qui se passe dans son cœur l'amène aussi à souffrir physiquement. Cet homme vit comme à l'état de bête, et encore on pourrait même dire que des animaux sont plus heureux dans la situation dans laquelle ils se trouvent. Cet homme est blessé, il se meurtrit avec des pierres. Cet homme n'a probablement plus de vêtements sur lui, ou en tout cas des vêtements déchirés. Il n'a plus aucune vie de famille, il n'a plus aucune vie dans la société, il est seul, rien n'est en bon état. Non seulement rien n'est en bon état, mais on ne peut plus rien faire pour lui. Le prophète Ésaïe dit, ce ne sont que des plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par lui. On ne peut pas le soigner, et puis on ne peut même pas atténuer sa souffrance. Certains ont bien essayé, en essayant de le lier pour éviter qu'il se fasse du mal, et éviter aussi qu'il fasse du mal aux autres. Mais à chaque fois, eh bien, cet homme est en train de briser ses chaînes. On ne peut plus rien pour lui. Humainement, il n'y a plus rien à faire. Sa situation va durer ainsi des années, aurait pu continuer jusqu'à la fin de sa vie si il n'y avait pas eu l'intervention de Jésus. Jésus arrive. Il nous a dit que lorsque ils arrivèrent de l'autre bord, Jésus a traversé ainsi la mer avec une barque où ils ont, avec ses disciples, subi une tempête et Jésus va calmer la tempête. Ils arrivent ainsi dans ce territoire des Gadaréniens qui se trouve au sud-est de cette mer. Et là, de suite, surgit un homme. Jésus va intervenir dans son amour. Il a traversé cette mer, affronté une tempête pour aller délivrer cet homme qui vit un tourment. Dans ce territoire-là, Jésus ne va intervenir que pour cet homme. Il a fait le déplacement juste pour une âme, puisqu'il nous est dit que les habitants, après, ont demandé à Jésus de partir. Et Jésus va donc repartir. Jésus va intervenir dans son amour. Il ne va pas laisser cet homme sans solution. Il ne va pas laisser cet homme sans guérison intérieure, sans délivrance. Jésus connaît la situation de cet homme comme il connaît chacune de nos situations. Il nous connaît tous personnellement. Oh, peut-être bien sûr que nous n'en sommes pas arrivés à l'extrémité dans laquelle cet homme est placé à cause de ses mauvais esprits. Mais il peut y avoir une souffrance intérieure suite à des drames que nous avons vécus et nous avons du mal à nous en remettre. Peut-être est-ce une maladie, peut-être autre problème, autre fardeau dans le cœur. en tout cas. Souvenons-nous de la bienveillance de Dieu. Souvenons-nous de son attachement pour nous, de son amour pour nous. Non seulement Jésus va intervenir dans son amour, mais il va agir avec autorité et puissance. Nous avons tout pleinement dans le nom du Seigneur Jésus. Il est celui qui est le Seigneur des Seigneurs, il est appelé ainsi. Il est au-dessus de tout, il est au-dessus de tous ces mauvais esprits. Il a triomphé de ces puissances démoniaques à la croix. Jésus est celui qui remporte la victoire sur tous nos problèmes. Imaginons, plus personne ne peut rien faire pour lui, mais Jésus, par sa parole et par l'autorité qu'il y a dans sa parole, va délivrer cet homme. Il nous a dit après que cet homme est assis, vêtu et dans son bon sens. Trois expressions qui veulent en dire long. Si avant l'intervention de Jésus, rien n'est en bon état, maintenant, tout est en bon état. Il est assis, vêtu et dans son bon sens. Il est tout d'abord assis. Il y a maintenant un certain équilibre. Quelqu'un qui est assis, c'est quelqu'un qui est tranquille. Au lieu de courir dans les pentes escarpées, dans les sépulcres, dans les montagnes, de s'agiter dans tous les sens, cet homme maintenant est tranquille. Il est assis. Quel changement! Et ce changement, c'est parce qu'il y a eu un changement dans son cœur. Deuxièmement, il nous a dit que cet homme est vêtu. Probablement qu'il était nu auparavant, ou alors avec des vêtements complètement déchirés. Maintenant, il est vêtu. Il a retrouvé ainsi une certaine dignité. Il va pouvoir se présenter en société. Il va pouvoir vivre normalement. Il est vêtu. Et puis, troisièmement, dans son bon sens. Voilà un homme équilibré, qui a du discernement, qui ne fait plus n'importe quoi. Il nous est dit qu'il est dans son bon sens. Ses pensées sont empreintes maintenant d'une certaine sagesse, d'une certaine intelligence. Il a du discernement pour pouvoir bien diriger sa vie. Et tout cela, parce que cet homme a rencontré Jésus. Nous voyons là la puissance et l'amour de Jésus pour chacun d'entre nous. Aussi bas que quelqu'un soit tombé, Jésus est tout-puissant pour l'en relever. Jésus est tout-puissant pour intervenir dans la vie de quiconque. C'est dans ces meurtrissures, dans les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris, dira le prophète Ésaïe. Oui, dans les meurtrissures de Jésus. Lui qui un jour est monté sur la croix, ses mains ont été percées, ses pieds ont été percés pour chacun d'entre nous. Ces meurtrissures nous rappellent son amour. Jésus qui ira jusque sur la croix. Fallait-il qu'il nous aime? À peine quelqu'un mourait pour un homme de bien, mais Jésus a prouvé son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour chacun d'entre nous. Et ses meurtrissures sur ses mains et sur ses pieds nous le rappellent. Quel amour! Et cet amour-là vient poser un baume sur notre cœur. Cet amour-là vient guérir nos cœurs brisés. Jésus est celui qui guérit les cœurs brisés. Il est celui qui apporte solution là où les hommes n'ont plus aucune solution. Nous voulons regarder à lui. Qu'est-ce qui nous pèse à l'intérieur de nous? Peut-être avons-nous consulté tout un tas de médecins, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les moyens qu'ils avaient. Peut-être avons-nous été voir toutes sortes de thérapeutes, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les moyens qu'ils avaient. Mais force est de constater que notre état s'empire. Et là, on se pose la question, mais qui peut quelque chose pour moi? Souvenons-nous de Jésus-Christ. Souvenons-nous de toutes ces expériences que des hommes et des femmes ont vécues avec lui. Nous en avons déjà vu quelques-uns. Souvenons-nous de ce possédé de Gadara. Cet homme qui était au bout, à l'extrémité, qui vivait un enfer dans son cœur, dans son âme, et qui maintenant est assis, vêtu et dans son bon sens. Tout cela parce qu'il a rencontré Jésus. Jésus va renvoyer cet homme vers sa famille. Il avait donc une famille. Mais maintenant, il va pouvoir reprendre contact avec eux, avoir une relation nouvelle. Sa famille, probablement, avait dû essayer de faire quelque chose pour lui, mais n'y était pas arrivé. Il était coupé jusqu'alors de sa famille, mais maintenant, une relation va pouvoir à nouveau se rétablir. Quelle joie, quel bonheur. Jésus apporte non seulement un bien pour cet homme, mais aussi pour toute sa famille qui va se réjouir de voir la délivrance, qui va voir le bonheur qui a tout à fait maintenant envahi le cœur de cet homme. Jésus va faire au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou même imaginer. Ce qu'il fait en nous a des répercussions même au-delà de nous. Ça a des répercussions pour tout notre entourage. Cet homme, eh bien, va publier dans toute la Décapole, dans tous les environs, tout ce que Jésus a fait pour lui. Nous voulons rendre grâce à notre Dieu. Nous voulons dire ce qu'il a fait, ses merveilles et ses œuvres qu'il fait en notre faveur, ses grâces et ses bénédictions. Oui, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Et encore pour nous aujourd'hui, le Seigneur a de grandes choses à faire. Il dit et la chose arrive. Non seulement pour ces esprits impurs, il a la puissance et l'autorité pour les chasser, mais nous l'avons déjà vu par rapport à la maladie et par rapport à ce qui touche notre être au plus profond de nous-mêmes. Jésus est venu pour nous bénir corps, âme et esprit. Et il nous prépare une place avec lui dans sa gloire, et ce, pour l'éternité. Alors ne perdons pas confiance. Même si dans notre vie, rien n'est en bon état et qu'il n'y a plus rien à faire, levons les yeux de la foi, les yeux du cœur, en nous tournant vers Jésus et en lui présentant dans la prière tout ce qui nous pèse. Croyons qu'il va intervenir et nous le verrons agir dans notre vie, car il est vivant, il est ressuscité. La mort n'a pas eu raison de lui, il est la résurrection et la vie. Jésus intervient dans notre vie. Et pour terminer, j'aimerais relever un dernier point. C'est Jésus qui a fait le premier pas. Il a traversé la mer, est arrivé dans ce pays des Gadaréniens, parce qu'il y avait là un homme en souffrance. Le premier à avoir pensé à délivrer ce malheureux, c'est Jésus. Cet homme ne pouvait pas faire appel à Jésus dans sa situation dans laquelle il se trouvait. Mais Jésus est venu jusqu'à lui. Après, cet homme a accouru vers Jésus. Mais le premier à avoir fait la démarche, c'est Jésus. Et cela, pour nous, est intéressant. Alors même que nous ne pensions pas à lui, lui pensait déjà à nous. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Nous n'avions pas pensé à faire appel à Dieu dans la prière. Mais lui vient à notre aide, à notre secours, et nous tend la main. Une fois que la main de Dieu est tendue, nous voulons à notre tour, bien sûr, venir à lui pour saisir sa main. Main dans la main maintenant, nous pouvons continuer notre route avec Jésus. Et cela change tout dans notre vie, comme pour cet homme. Que Dieu soit béni pour tout ce qu'il fait en nous. Pour conclure cette émission, nous allons écouter un chant du groupe Impact qui s'intitule « Une vie transformée ». Une vie transformée comme pour cet homme que nous avons vu aujourd'hui, mais aussi une vie transformée pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions maintenant, main dans la main, marcher avec Dieu.
De mon cœur, je veux voir s'établir ton royaume, Seigneur.
Toi.